Bonsoir, le maire de Béni annonce l'instauration d'un couvre-feu dans la ville à partir de ce lundi. Ceci à la suite de l'assassinat le week-end dernier d'une dizaine de personnes. Pour sa part, la société civile du Nord Kivu appelle le chef de l'État à décréter un état d'urgence à Béniville et Béni Territoire. Elle qualifie les massacres des civils d'une nouvelle guerre qui commence dans la zone. Quelle analyse faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Nyonyi Bwanakawa, maire de la ville de Béni. Monsieur le maire, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le maire.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et président national du parti politique DCFN. Bonsoir, professeur.
Bonsoir,
madame. Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique au Congo et analyste politique. La réalisation me signale qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Entre temps, bienvenue à tous dans votre émission.
Adieu. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le maire de la ville de Béni a décrété à partir de ce lundi un couvre-feu pour faire face à la résurgence de l'insécurité. En effet, ce week-end, une dizaine de personnes ont été assassinées. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
La décision du couvre-feu est partie des derniers cas d'assassinat le week-end dernier d'au moins 30 personnes selon le maire de la ville de Béni. Nyonyi Bwanakawa a ainsi décidé que toutes les activités devraient désormais cesser dans la ville de Béni à partir de 18h locales. Cela pour faire face à la résurgence des massacres des civils à Béni. Radio Capi a noté que la mesure a été respectée par les habitants de Béni, même si c'est contre leur gré, disent certains. Hier lundi déjà, dès 17h30, toutes les activités ont cessé. Le grand marché qui fonctionnait jusqu'au-delà des 18h30 a fermé un peu plus tôt que d'habitude. Magasins, boutiques et pharmacies ont aussi fermé. Voitures et motos ne circulaient plus après 18h et toutes les rues de Béni étaient désertes, donnant à Béni l'air d'une ville fantôme. En tout cas, ce sont là les signes matériels du respect de cette mesure mise en place pour faire face à la résurgence des massacres des civils dans cette ville du Nord Kivu. Rappelons que lors de son séjour à Béni, le président Joseph Kabila s'était entretenu jeudi avec les différents groupes sociaux du territoire sur la situation sécuritaire, où l'on signalait déjà plus de 100 morts perpétrés par les éléments de l'ADF. Parmi les recommandations que la société civile avait présentées au chef de l'État, il y avait notamment la relance de l'opération Sokola 1. Le président de la République a mis en garde les éléments de l'ADF pour apaiser la population de Béni. Entre-temps, l'ONG internationale Amnesty International demande aux forces de la MONUSCO et aux autorités congolaises d'agir de façon urgente pour protéger les civils menacés d'attaques criminelles dans cette partie de la RDC.
Merci Berry Franklin Luchaka, Nyonyi Bwanakawa, je rappelle que vous êtes maire de la ville de Béni. Monsieur le maire, pour commencer, comment s'est déroulé le couvre-feu que vous avez décrété depuis ce lundi?
Oui, monsieur le journaliste, je veux d'abord apporter un petit rectificatif, c'est que le couvre-feu ne part pas de 18h locales, mais il part à partir de 18h30. Et ce jusqu'à 10 heures du matin. Alors, comment s'est déroulée la première journée? Comme celui qui a fait le récapitulatif de la situation sécuritaire en ville de Béni l'a dit, et la décision a été prise consécutivement à la situation déplorable que nous avions enregistrée en ville de Béni, d'abord en date du 15 octobre dernier. Quand la ville a déploré la mort de 30 personnes qui ont été tuées par armes blanches pour la plupart, et pour deux autres personnes qui étaient des militaires qui ont été tuées par armes à feu. Nous croyons que c'était juste un premier et un dernier événement, mais voilà que le samedi passé, nous avons été surpris. Et si le premier événement du 15 a été enregistré véritablement aux périphéries de la ville de Béni, mais au moins l'événement de samedi passé, soit le premier novembre courant, a été enregistré presque au centre-ville. Et il est important que je puisse rappeler que la ville de Béni, c'est une ville urbano-rurale, avec limite avec le parc national de Virunga. Et c'est comme je le disais tantôt, le samedi passé, nous avons déploré la mort de plus ou moins 11 personnes, et certains tués par arme blanche et d'autres tués par arme à feu, face à une situation recrudescente d'insécurité. Il était important que le comité de sécurité siège et qu'il trouve des moyens adéquats pour lutter contre cette insécurité. Et c'est comme ça qu'à l'issue des échauffourées qui ont caractérisé la ville le dimanche passé, le comité a décidé, le comité urbain de sécurité élargi au commandant de la troisième zone de défense, le général Mouchale, qui réside à Béni depuis un temps, le commandant des opérations Sokola, le général Mundos, qui a pour résidence Béni pour bien mener les opérations Sokola. Il a été décidé que désormais nous devons observer un couvre-feu sec et chaque jour, comme je l'ai eu à le dire, à partir de 18h30 jusqu'à 6h du matin. Comment s'est déroulée la première journée? C'était dur pour nos administrés, nous le savons. Et nous savons aussi que les jours qui vont suivre pourront être aussi durs que le premier jour, parce qu'il y a de ces compatriotes qui gagnent leur pain la nuit, mais à cause de la recherche de la voie pour lutter contre l'insécurité, nous leur demandons de ne pas gagner leur pain pendant la nuit et qu'ils doivent chercher une autre voie pour gagner leur pain. La première nuit a été observée par tout le monde. C'est déjà à 18h30 que chacun, disons à 18h, que chacun cherchait à regagner son domicile ou bien sa résidence.
Monsieur le maire.
Et déjà à 18h30, la ville était très déserte.
Voilà, donc on comprend que pour la première journée, le couvre-feu a été respecté, mais il y a Amani Mouvouni Jussin qui nous écrit de Béniville qui dit « Le couvre-feu est une bonne chose. Malgré cela, nous constatons l'absence des policiers et soldats dans certains quartiers de la ville qui sont maintenant censés sécuriser la ville. Il y a de cela 24 heures que l'opération a commencé, mais en vain. Je n'ai même pas vu un agent de l'ordre dans cette contrée. Ce matin, beaucoup de gens pleurnichaient dans d'autres quartiers qu'ils étaient arrêtés et contraints de payer une amende de 100 000 francs.
C'est vrai, monsieur le journaliste, il est difficile que nous puissions mettre un policier devant chaque parcelle ou bien un militaire devant chaque parcelle. Mais l'important pour nous, ce que nous visons, c'est de pouvoir comprendre qui sont ces personnes qui amènent la mort et la désolation au niveau de nos populations, parce que quand nous avons décrété le couvre-feu, il a été dit que toute personne qui sera trouvée en train de vagabonder, ou bien pour ne pas parler de vagabonder, en train de se promener pendant ces heures-là, la personne devra être traitée comme un ennemi. Le fait que certaines personnes aient été soumises au paiement d'amende, vous savez, certains récalcitrants, ils ne manquent jamais. Quand bien même la mesure a été décrétée, mais certaines personnes pensent que non, et nous pouvons toujours aller à l'encontre. L'administration est caractérisée par la contrainte. La police a dû arrêter ces personnes qui ont voulu enfreindre cette mesure. Et il était normal que ces personnes-là, pour récupérer leurs engins, pour la plupart, c'était certaines personnes qui avaient des véhicules et d'autres encore qui avaient des motos, et ils ont été soumis au paiement des amendes dites transactionnelles, ce qui est légal, je crois.
Alors, monsieur le maire, très brièvement, quelle est la limite, finalement, entre ces amendes et les exactions que peut subir la population? Nous ne sommes qu'à un jour de ce couvre-feu et il y a déjà des plaintes.
Plutôt, il faut demander à ces administrés qui ont voulu apprendre la mesure qui a été arrêtée par le comité urbain de sécurité et édictée par le président de ces comités, c'est-à-dire je parle du maire de la ville, de respecter cette mesure pour éviter les amendes. Par exemple, cette nuit, ou bien ce soir, je suis parti de mon bureau pour ma résidence, mais pour mon domicile. Je n'ai trouvé aucune moto, aucun véhicule sur la route. Et carrément, il n'y a personne qui pourra se plaindre demain.
Merci.
Il a été soumis au paiement des amendes.
Merci, Monsieur le maire. Professeur Arsène Mouaka, vous êtes député national de l'opposition et président national du parti politique DCFN. Professeur, tout récemment, vous étiez à Béni, sur place, dans la délégation des notables de la ville, députés et autres élus qui étaient sur place. Comment avez-vous trouvé la situation sur place à Béni?
Je voudrais d'abord commencer par saluer le maire de ville et lui dire un mot d'encouragement, puisque lors de mon séjour à Béni, j'ai encore vécu le calvaire qu'il est en train de traverser. Il n'est pas facile d'être maire de ville de Béni, puisqu'on ne peut pas dormir. Et donc, je l'encourage beaucoup. Lors de notre séjour à Béni, la semaine passée, nous avons trouvé une ville qui était exsangue, une ville dans laquelle les traces des crimes et des tueries étaient encore assez chaudes. Nous avons trouvé quelques effets sur le lieu, des draps, des moustiquaires, des étoffes qui ont servi à ligoter les gens avant de les égorger. On a trouvé des maisons qui étaient défaussées, dans lesquelles personne n'était encore entré. Bref, une scène macabre et révoltante. Et donc, c'est très difficile. La peur, l'incertitude et la terreur règnent à Béniville, à Eringeti, à Oicha, à Linzo, à Kokola, partout où nous sommes passés. C'était inacceptable, la situation qui s'est vue.
Alors, la peur règne en maître à Béni. Professeur, parmi les solutions, il y a ce couvre-feu qui a été décrété. Comment vous l'analysez?
Oui, je voudrais d'abord dire que nous avons traversé une situation où pratiquement la population semblait avoir pris sa sécurité entre les mains. Et chaque nuit, on y déplorait des morts, parfois par confusion, des patrouilles de jeunesse, et ainsi de suite. Et parmi nos recommandations, nous avons demandé que les autorités de la ville, et puisque la situation dépasse le seul comité urbain de sécurité de la ville de Béni, on a recommandé au gouverneur, au ministre de l'Intérieur, d'appuyer le maire de ville pour que la situation sécuritaire et même la justice reprennent leur place habituelle. Et je pense que le comité sécurité urbaine s'est réuni avec le commandement militaire pour essayer de trouver peut-être une première mesure. Et je crois que c'est la première réponse qui est apportée par le gouvernement pour que les gens ne puissent pas circuler. Le maire de ville venait de le dire, c'est tout simplement puisque l'ennemi pénétrait en ville. Mais je voudrais souligner quand même que l'ennemi a commencé à tuer depuis le 2 octobre. Depuis le 2 octobre, l'ennemi a commencé à tuer et aujourd'hui nous sommes le 4 novembre et donc ça fait plus d'un mois successivement que les gens sont morts et dans toute cette région de Béniville, Béni territoire, c'est chacun qui dort la peur au ventre. Nous avons trouvé des gens qui nous disent quand le soleil veut se coucher, on a tendance à vouloir tenir le soleil pour qu'il ne se couche pas et la nuit on se demande quand est-ce qu'il va faire jour, puisqu'à chaque fois que c'est la nuit, nous avons peur. Mais il y a eu aussi des morts la journée sur la route de Kainama et donc on ne sait pas s'il faut faire des couvre-feux la journée et la nuit. Et donc, là, ça devient plus compliqué. Et donc, je semble croire que la solution définitive pour cette situation, elle est connue de tout le monde. Il faut qu'il y ait des forces qui rentrent dans la périphérie des villes et des agglomérations pour aller traquer l'ennemi. Il s'agit d'une guerre. Et donc, il faut se comporter dans le cadre d'une guerre. Bon, maintenant, je ne vais pas contester la mesure qui est pratiquement prise par le comité urbain de sécurité, mais j'ai dit que cette mesure a quelques dangers. Le premier danger, c'est que à Béni, on est dans une ville où tout le monde n'a pas de clôture et l'écrasante majorité de la population a ses toilettes dehors. Ça signifie la nuit, il y aura des gens qui vont sortir. Déjà hier, les gens de Païda, les gens de toutes ces contrées m'ont appelé après 18 heures puisque ils étaient en train de fuir. On leur avait dit qu'il y avait des attaques et autres, et quel que soit ce couvre-feu, ils devaient se sauver. Et donc, c'est dire qu'il pourrait encore y avoir des quartiers qui pourraient être attaqués, et les gens seront amenés à bouger. Et donc, le risque, c'est de se retrouver entre deux feux, le feu des assaillants et le feu des patrouilleurs. Et donc, ça contient des dangers. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais cette mesure ne manque pas de dangers. La solution ultime, c'est rentrer à Brousse, traquer l'ennemi comme on l'a fait pendant les opérations Sokola 1. C'était très beau. Les gens allaient cultiver leurs champs et tout allait bien. Et donc, nous encourageons le gouvernement à faire autant.
Et donc, le couvre-feu, professeur, n'est qu'une solution cosmétique?
Je ne pense pas qu'on puisse interdire à un comité de sécurité à prendre des mesures conservatoires, mais je crois que ces mesures ne doivent pas prendre trop de temps, puisqu'il y a très 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 longtemps que Béni a connu ce genre de mesures, et les gens sont habitués à leur liberté le soir, et c'est une ville assez libre, et donc je sais qu'il y a des risques graves, puisque on ne tiendra pas longtemps avec cette mesure, et donc les gens doivent vivre.
Jean-Paul Wandanda de Lubumbashi dit, la vraie question n'est pas seulement celle d'organiser le couvre-feu, mais aussi celle de savoir qui sont les véritables responsables de ces tueries, professeur. Et il ajoute que nous doutons fort que cela soit mis sur les dos des seuls ADF.
Je pense que jusque-là, tout le monde est dans les hypothèses. Puisque depuis qu'on a commencé à traquer, depuis que les assaillants rentrent dans la ville pour égorger les gens, puisqu'il faut noter que ces assaillants ont fait une vingtaine d'années dans cette région, et c'est la première fois qu'ils viennent opérer dans la ville, si ce sont eux. Et c'est pourquoi beaucoup de gens doutent, parce que pendant plus de 20 ans, ils n'ont pas attaqué la population. Et les méthodes qui sont utilisées, le mode opératoire, n'est pas un mode nouveau dans la sous-région. Et il y a des témoignages des gens qui vous disent, tantôt ils parlaient Kiswahili, tantôt ils parlaient Kiganda, tantôt ils parlaient Kinyarwanda. Et donc c'est une confusion totale.
Ça va dans tous les sens.
Oui, c'est une confusion totale. On ne sait pas encore identifier l'ennemi avec précision. C'est pas pour autant que j'entre dans ce qui est militaire, mais je sais qu'il y a un travail à faire, c'est d'identifier l'ennemi et de le traquer.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, bonsoir, vous êtes en ligne. Monsieur l'abbé Mugaruka. Voilà, je crois qu'on a perdu Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique au Congo et analyste politique. Monsieur le maire, je reviens à vous. Qui sont finalement ces assaillants? A-t-on une idée de leur identité?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je remercie l'honorable Arsène Mouaka, élu de la ville de Beni, pour le réconfort et la compassion qu'il nous a adressé, nous en tant qu'autorité et nous en tant que et avec tous les administrés qui sont avec nous et qui sont en train de nous suivre. Qui sont les assaillants? C'est depuis le mois de février, d'ailleurs je pourrais même parler de janvier 2014, que la ville de Beni est en proie à cette forme d'insécurité. D'abord, au mois de février, ce sont les bombes qui ont commencé à être jetées par-dessus la ville. Et les jeteurs de ces bombes-là se méfiaient éperdument des personnes qui devaient être victimes de ces différentes bombes. Par la suite, ce sont les bombes de type artisanal qui ont commencé à être placées dans certains carrefours de la ville. Et il est question que je puisse porter à l'attention de l'opinion nationale ce genre d'insécurité a créé beaucoup trop d'infirmité au niveau de nos administrés, parce que il suffisait par exemple qu'une bombe soit jetée, on ne savait pas elle va tomber dans quelle parcelle ou bien sur quelle avenue. Des gens qui jadis avaient tous leurs organes en place, aujourd'hui ils sont devenus infirmes, et aujourd'hui aujourd'hui on se retrouve face à des gens qui égorge, comme l'honorable l'a dit, nous croyons ou bien nous pensons que rien qu'à voir le mode opératoire de l'insécurité que nous avons connu à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril inclus, et l'actuelle forme d'insécurité qui consiste à égorger certains innocents, en tout cas il y a une certaine ressemblance. C'est comme ça que nous, on s'est dit, le groupe qui est en train de perpétrer ce genre d'action, c'est inévitablement les Eïdiès Nalou qui sont très traqués par les opérations Sokola. Il est important que je puisse préciser que les opérations Sokola n'ont pas ralenti. Les militaires occupent leurs différentes positions dans les forêts de la République démocratique du Congo pour traquer les Eïdiès Nalou. Maintenant, ce qu'ils recherchent à travers ces différentes tueries, c'est de comprendre que les agglomérations sont insécurisées et qu'il serait peut-être important que les militaires quittent leur position et retournent pour protéger les agglomérations. Ce qui serait une erreur très très grave.
Merci, Monsieur le maire. On me signale que le professeur Mugaruka est en ligne. Monsieur l'abbé Mugaruka, vous nous suivez?
Oui. Je suis en ligne.
Merci beaucoup et bonsoir. Pour vous, monsieur l'abbé, quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut à Béni?
Tout d'abord, je voudrais présenter mes condoléances non seulement à la population de Béni, mais aux familles qui ont été directement touchées par ces malheureux événements. En ce qui concerne ma réaction par rapport à cela, je voudrais d'abord souligner que ce qui est arrivé ne devrait normalement pas surprendre, en tout cas pas les militaires, parce que Béni se trouve en zone opérationnelle pour le moment. Et lorsqu'on fait la guerre, il faut savoir donner la priorité au renseignement. On ne peut pas faire la guerre si on ne connaît pas qui est-ce qu'on combat, où est-ce qu'il se trouve, quels sont ses moyens, et éventuellement arriver même à pénétrer ses plans d'action et ses intentions d'action sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, lorsque on nous dit qu'il y a eu des incidents à Béni, il faudrait d'abord interpeller les services de renseignement de l'armée qui est en opération là-bas. Il faudrait qu'il se renseigne mieux sur les positions et sur les intentions et sur les mouvements de l'ennemi afin de ne pas se laisser surprendre. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que vous avez là-bas non seulement les forces armées de notre pays, mais aussi la présence de la MONUSCO, donc des soldats des Nations Unies. Cela fait que les personnes qui sont engagées dans ces opérations appartiennent à deux organisations et par conséquent ces deux organisations devraient être à mesure de s'acquitter de leur devoir. Les premiers à être concernés, c'est évidemment notre propre armée, parce que dans toutes les résolutions, notre armée, notre gouvernement ont un rôle que les résolutions qualifient de prépondérant. Il appartient tout d'abord au gouvernement congolais, à notre armée, d'assurer la protection de nos populations, de s'acquitter ainsi de son devoir premier. Et donc, il appartient aussi, puisque la MONUSCO est engagée et qu'elle est donc au poste de notre armée, il appartient aussi à la MONUSCO, dont le mandat inclut exclusivement et explicitement la protection des populations civiles. Et il appartient aussi de se poser la question de savoir si, en laissant perpétrer, se perpétrer et et continuer ces événements, et si elle n'a pas manqué à son devoir. Donc, il faudrait vraiment que ce soit que le retour à ce que j'appelle ce que vous appelez la sécurité civile, et que ce soit vraiment un dernier recours, mais il faut d'abord que l'armée et les services de renseignement et les forces armées donc s'acquittent d'abord de leurs devoirs. Cela fait quand même assez longtemps, depuis longtemps, que les gens de Béni connaissent l'insécurité. On a parlé déjà des premiers signes inquiétants au mois de février dernier. Et c'est que parler aujourd'hui de surprise, ce n'est pas normal.
Monsieur l'abbé, Monsieur l'abbé, il y a un couvre-feu qui a été décrété à Béni déjà comme début de solution. Pour vous, est-ce que c'est efficace cette mesure?
Ce n'est pas une solution, le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est disons, une mesure conservatoire, mais qui n'est absolument pas suffisante, parce que il réagit, il porte sur les effets et pas sur la cause. Les gens peuvent, on peut décréter le couvre-feu, mais si l'ennemi est là, il ne se sentira certainement pas concerné par ce couvre-feu, pas du tout. Et donc, oui, c'est bien, c'est une mesure en plus pour permettre peut-être à l'armée de mieux faire son travail, mais le plus important, c'est de traquer, d'abord d'identifier, de localiser les fauteurs de troubles et de les traquer là où ils sont. Là où ils sont, pour éviter, justement, pour prendre le problème à la racine et non pas en aval. Tant qu'ils seront là, eux ne se sentiront pas concernés par ce couvre-feu et donc ils pourront toujours agir. D'ailleurs, vous avez suivi le témoignage de quelqu'un qui disait qu'en plein couvre-feu, on a dit aux gens qu'il y avait une attaque et ils ont dû sortir pour essayer de se sauver, ce qui a rendu le couvre-feu finalement inutile et compliqué la tâche à ceux qui devaient défendre la ville. Non, je pense qu'il faut vraiment faire un travail de fond sur le plan de renseignement et attaquer et traquer l'ennemi là où il est, comme cela a été prévu, cela a été promis, aussi bien par le gouvernement congolais que par la MONUSCO.
Monsieur l'abbé, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mouéné Ditou.
Clovis Kaloloa Kalolo, depuis Mouéné Ditou au Kasaï oriental. Instaurer un couvre-feu dans la ville de Beni ne suffit pas pour la protection des pauvres populations innocentes, mais plutôt il faut chercher le vrai problème qui semble être caché. Comment expliquer ces massacres perpétuels sans nom et sans raison valable? Le gouvernement doit doter l'armée de tous les moyens de défense et chercher à voir si au sein de l'armée, il y a des commanditaires et des éléments étrangers qui collaborent avec les semeurs des troubles et désolations à Beni.
Il faut chercher les vraies causes, monsieur l'abbé. Avez-vous l'impression, comme cet auditeur, que jusque-là, on n'a pas découvert quelles sont les vraies causes pour y apporter les vrais problèmes, les vraies solutions?
Je trouve anormal que après tout ce qui s'est passé et qui dure depuis pratiquement février, on ne soit pas encore arrivé à identifier les fauteurs de ces troubles-là. On dit beaucoup de choses à ce sujet-là, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. C'est quand même une vérité première. Et donc, nos services de sécurité, et en particulier les services de renseignement de l'armée, devraient être en mesure d'identifier ces gens-là. Est-ce que ce sont des ADF Nalou? Est-ce que ce sont des, comme certains l'ont dit, des éléments du M23 qui se seraient enfuis ou du Rwanda ou de l'Ouganda ou du Congo? Est-ce que ce serait un autre mouvement insurrectionnel? Non, il faut qu'on les identifie absolument.
Merci.
On ne peut pas combattre un ennemi qu'on n'a pas identifié. Il faut qu'on les localise. J'ai entendu quelqu'un de très haut placé dire que ces gens qu'il n'y a pas de zone occupée par les ennemis au Congo. Mais ceux qui combattent à Goma ne tombent pas comme pas du ciel, ce ne sont pas des parachutistes célestes.
Merci.
Ils sont quand même localisés quelque part. Donc, ça c'est un travail de fond qu'il faudrait faire le plus vite possible pour permettre pour se donner les moyens de pouvoir entreprendre une action militaire
merci, monsieur l'abbé.
Beaucoup plus efficace. Oui.
Merci, monsieur l'abbé. Professeur Mwaka, il y a la société civile du Nord Kivu qui appelle le chef de l'État à décréter un état d'urgence à Beniville et Beni territoire. C'est quoi un état d'urgence et est-ce que ça se justifie dans ce cas?
D'abord, un état d'urgence, c'est quoi? Je crois qu'un état d'urgence, c'est un ensemble de mesures exceptionnelles qui sont prises par le chef de l'État au terme de l'article 85 de notre Constitution pour faire face à une situation exceptionnelle, généralement une situation de guerre, afin que l'action qui sera menée contre cette situation exceptionnelle soit efficace. Et donc, il s'agit des mesures qui sont prises dans le sens de restreindre les libertés des citoyens et essayer de voir dans quelle mesure j'en remplacer un militaire peut-être comme dirigeant d'une entité, obliger les gens à ne pas se déplacer vers un coin. Et donc, le gouvernement et le président de la République particulièrement prennent des mesures exceptionnelles, consultent le président de l'Assemblée pour cela, et l'Assemblée nationale siège, autorise une telle situation qui ne doit pas dépasser 30 jours, et dans le cas où les 30 jours expirent avant que la situation ne soit rétablie, eh bien, on peut renouveler encore 15 jours, jusqu'à ce que le Parlement pourra apprécier que ça n'est trop et pourra arrêter, parce qu'il s'agit de restreindre les libertés des citoyens.
C'est une disposition constitutionnelle, il faut le signaler.
Oui, c'est une disposition constitutionnelle qu'on peut trouver à l'article 85 et à l'article 146-145 de notre Constitution.
Alors, pour le cas de Béni, est-ce que ça se justifie selon vous?
Bon, je crois que nous risquons de tomber dans ce que j'appellerais le congolisme, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une situation, on recourt à un vocabulaire pour croire qu'un vocabulaire peut changer une situation. Je ne suis pas convaincu que en restreignant trop les libertés des gens, ça sera plus efficace que les opérations Sokol 1 qu'on a très bien mené, parce qu'il faut avouer que depuis janvier pratiquement, janvier-février, des très bonnes opérations de notre armée, les phares d'essai, ont été menées à la grande satisfaction de toute la population de Béniville, Béni territoire, qui a contribué à prêter main forte à notre armée. Et la situation évoluait très bien. Les gens commençaient à aller dans leur champ à plus de 15 kilomètres. Tout allait bien. L'ennemi était localisé dans un périmètre maîtrisé et les choses allaient vers la fin. Et donc, la situation qui vient rebondir est une surprise désagréable pour la population à telle enseigne qu'aujourd'hui, il faut peut-être recommencer. Moi, ce que je dirais, je ne suis pas technicien militaire, je dis il faut mener des opérations genre ce qu'on a mené depuis janvier. J'en profite pour féliciter notre armée, parce qu'elle a fait du très beau travail.
Professeur, il y a cette réaction pour vous qui nous vient de Kisangani.
Docteur Lismungi Botomoito, je vous appelle depuis la province orientale à Kisangani. Je me demande si le couvre-feu à Goma ont déjà amené la paix à Goma pour qu'aujourd'hui les autorités de Beni prennent cette décision qui semble être un calme et non à mettre fin sur le dossier. Ne verrez-vous pas que le couvre-feu n'est qu'une faiblesse de notre part et risque d'amplifier encore les choses? Au stade actuel, le vrai dialogue interkivoutien s'avère indispensable car la province est trahie par ses propres fils à cause des richesses.
Réaction, professeur, comment vous trouvez cette solution que propose PP de Kisangani?
Bon, je crois que la mesure qui est prise pour le couvre-feu devrait être levée d'ici là. Mais on ne peut pas empêcher un comité de sécurité d'essayer une solution. Si pendant une semaine, deux semaines, six mois, on ne va pas tuer les gens puisqu'il y a eu couvre-feu, nous dirons que la mesure a été efficace. Autrement, les gens ont circulé et certains ont attrapé des balles dans la rue. Récemment, au quartier Bel Air à Béni, deux personnes ont été tuées tout simplement puisque ces personnes se sont retrouvées dans la rue. Et donc, si la mesure est efficace, on ne peut pas la condamner. Mais si je suis d'accord sur cet aspect avec notre ami de Kisangani, je ne suis pas tout autant d'accord qu'ils disent que la guerre elle est interkivoutienne.
Il propose quand même un dialogue interkivoutien.
Mais il n'y a pas des kivoutiens qui se battent. On se bat contre un ennemi qu'on ne connaît pas. Vous allez dire que ce sont des kivoutiens en quoi? Il s'agit des Ougandais. Les EDF, tous nos auditeurs, et à commencer par notre ami de Kisangani, doivent savoir qu'il s'agit des opposants armés ougandais qui se retrouvent chez nous depuis plus de 20 ans. En train de chercher comment aller prendre le pouvoir chez eux en Ouganda. Ça n'a rien à voir avec les Kivusiens. Maintenant, s'il peut y avoir un ou deux fils du Kivu égarés qui s'y retrouvent, et même un des Kisangani, un des Kasai, puisqu'il y en a de toutes les provinces, quand on attrape ces gens-là et qu'on les identifie, il y a aussi quelques Congolais. On ne peut pas généraliser pour dire qu'il s'agit de tous les Congolais qui font un dialogue intercongolais.
Monsieur le maire Nyoni Bwanakawa, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de la province orientale.
Christian Alibou, territoire de Dungu, province orientale. Ce décret de la mairie n'est qu'une mesure préventive, loin de résoudre cette crise d'énigme, s'il y a surtout implication congolaise à la main visible. Cette mesure palliative présente trois risques, notamment, primo, le changement des méthodes d'opération par la horde d'assassins. Secundo, l'immobilisme et la fixie économique, Tertio perdurait la crise au risque de sa pérennisation. Pourquoi l'État congolais tarde-t-il de se mobiliser avec la communauté internationale pour décréter un état d'urgence dans cette contrée et surtout la mise sur pied d'une commission d'enquête des experts indépendants des conflits en vue de découvrir la cause?
Réaction, Monsieur le maire.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Il est important que je précise auprès de l'opinion nationale que au moins aujourd'hui, la mesure que nous avions prise semble avoir donné des fruits. Il est aujourd'hui autour de 18h30 local. La localité de Ngadi a encore été attaquée par les mêmes assaillants. Et l'armée a eu la tâche facile parce que toute personne était dans sa maison ou bien dans sa parcelle. Le temps que l'armée puisse arriver, elle a su identifier les assaillants et avant que ceux-ci ne procèdent à l'égorgement de nos compatriotes, l'armée a réagi et les assaillants ont été mis en déroute. Ça s'est passé aujourd'hui avant que nous ne puissions commencer l'émission. Et vous comprenez que si nous n'avions pas pris cette mesure depuis hier, il y aurait eu une confusion entre les administrés qui seraient en train de vaquer à leurs occupations quotidiennes et les assaillants qui seraient déjà entrés au niveau de la ville. Donc au moins à ce niveau-là, nous sommes d'accord que c'est une mesure palliative, mais que l'important serait de voir qu'est-ce qui mérite d'être fait pour que ce genre d'insécurité, on arrive à y mettre un terme. Mais cependant, il est important que je puisse préciser qu'au niveau de la ville de Beni, il s'agisse de l'armée, de la police nationale congolaise, de la police de la MONUSCO et des contingents de la MONUSCO travaillent ensemble pour voir qu'est-ce qui mérite d'être fait pour que l'insécurité arrive à être jugulée. Mais comme le compatriote de Kisangani l'a dit, il est important que nous puissions véritablement dénicher ou bien connaître le groupe qui nous met en difficulté aujourd'hui. Je l'ai dit dans mon précédent propos, le groupe c'est le AIDF NALU tel que l'honorable Mouaka l'a souligné. La cause c'est qu'ils sont traqués par les FRDC au niveau de leur position qu'ils occupaient avant. Mais maintenant ce qu'ils cherchent c'est que les FRDC arrivent à comprendre que il est important que les agglomérations arrivent à être protégées et que l'on retire les forces des FRDC pour venir protéger les agglomérations et que eux, à leur niveau, qu'ils continuent à pouvoir régner sur les forêts de la République démocratique du Congo.
Merci, monsieur.
Mais la question que je me suis toujours, je vous en prie, la question que je me suis toujours posée, en quoi est-ce que ce groupe-là continue-t-il à être un groupe des rebelles ougandais basés au Congo, d'autant plus que ceux qui payent le lourd tribut, ce sont les Congolais et c'est la République démocratique du Congo.
Merci, monsieur le maire. Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, l'état d'urgence se justifie-t-il pour vous?
Il est très difficile d'apprécier cette mesure-là lorsqu'on n'est pas sur place. Il faut simplement dire de manière générale que tout ce qui peut contribuer à permettre aux forces armées de faire leur travail et de manière à éviter d'exposer la population civile, et que tout cela ne peut être qu'encouragé. Mais il faut aller à la cause. Il faut plutôt chercher à débarrasser la région de ces hordes armées et ne pas se contenter simplement des mesures que je peux appeler de protection civile. Donc, comme je l'ai dit, c'est une zone opérationnelle. Les soldats sont là depuis un certain temps, et ils sont en guerre. Maintenant que les ennemis ont changé manifestement de mode opératoire et qu'ils s'entraînent de manière délibérée aux populations civiles, il s'agit d'abord évidemment et en priorité de protéger ces populations, mais il faut arriver absolument à localiser les points, donc les endroits où se cachent ces rebelles ou ces agresseurs et les attaquer là où ils se trouvent. Si c'est dans la forêt, bien qu'on ait les chefs dans la forêt, pour les éloigner justement de la ville et les empêcher de continuer à tuer des civils innocents.
La société civile du Nord Kivu, M. Labbé, pense qu'il s'agit d'une nouvelle guerre. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Et voilà, encore une fois, un travail qui ne peut... Voilà une affirmation qui devrait faire l'objet d'un renseignement, d'un travail en profondeur. Parce que, comme je l'ai dit au début, si on ne connaît pas très bien, on ne peut pas identifier les agresseurs, ou même si on les identifie sans savoir exactement quelles sont leurs véritables intentions, quels sont leurs plans, eh bien, il est difficile de les combattre. Et ça, je pense que c'est un travail auquel il faudrait accorder priorité. Maintenant, on nous dit que ce sont des Ougandais qui veulent rentrer chez eux. Mais ce n'est pas en tuant les civils innocents de Beni qui vont arriver à rentrer chez eux. Manifestement, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faudrait vraiment qu'on puisse mieux qualifier les faits et en connaître les causes profondes pour mieux mener cette opération-là. Il ne suffit pas simplement d'apprendre qu'il y a quelque part une agression et de mettre l'ennemi en déroute. Il s'agit plutôt de savoir quelles sont ses intentions profondes afin de savoir prendre le problème à la racine au niveau de ses causes profondes.
Et en guise de conclusion, M. Labbé, quelle est la solution efficace pour vous?
Bon, maintenant, il y a deux types de mesures. Il y a donc l'action de l'armée qui avait déjà commencé d'ailleurs depuis longtemps avec l'opération Sokola qui doit pouvoir se poursuivre. Mais il y a une nouvelle donne, c'est le changement du mode opératoire de la part de ses ennemis. Et comme effectivement ils ont donné la mesure de leur capacité de nuisance, en particulier en égorgeant et en tuant des civils innocents, je crois qu'il y a des mesures préventives et urgentes à prendre pour d'abord assurer la protection de l'agglomération de Beni. Et ensuite, alors, poursuivre la question en profondeur en essayant d'éradiquer l'ennemi en allant jusque là où il se trouve.
Professeur Mwaka, qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent qui semblent transpirer un manque de coordination entre la MONUSCO et les FARDC?
Bon, je crois que dès le début des opérations Sokola 1, il était très clair que la priorité pour la MONUSCO se trouvait du côté de FDLR. Et pour notre gouvernement, ça s'est retrouvé du côté de ZDF. Et ça n'a pas permis qu'on puisse se retrouver à face des opérations très bien menées jusqu'à la fin et rapides comme celles qu'on avait eues à Rutshuru. Mais ce n'est pas pour autant que notre armée ne s'est pas battue. Moi, je continue à la féliciter, elle s'est battue. Malheureusement, à la fin, les choses ont cédé, une sorte de relâchement a été observé, donc on le déplore. Mais je voulais rebondir sur l'affirmation qui veut qu'il y ait un état d'urgence à Beni pour dire que ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Il y a eu des opérations, ça a des grands vocabulaires. On a dit Sokola 1, les opérations ont été bien menées. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Nous avons besoin des opérations comme Sokola, tel que ça a été mené avec le général Daouma.
Et donc, pour vous, en guise de conclusion, ça reste la seule solution.
Sécuriser la population à territoire à ville de Beni, c'est mener des opérations, mettre hors d'état de nuire ceux qui sont en brousse. Tout le reste n'est que de choses. Mais sinon, je semble croire qu'il faut mener des opérations. Maintenant, avant de mener les opérations, il faut identifier contre qui on se bat et ainsi de suite. Mais je sais que les services de sécurité font très bien leur travail. Nous les avons même félicités quand nous étions là.
Merci. Monsieur le maire, un mot en guise de conclusion.
Le phénomène EIDF, c'est un arbre qui cache la forêt. Et le président de la République, quand il a séjourné en ville de Beni, il a bien dit que toute forme de négociation avec des terroristes ne pourra jamais avoir lieu. Et il est important que tous les moyens soient mis à la disposition du commandement des opérations Sokola.
Merci.
Pour qu'on en finisse véritablement avec ce phénomène.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation, Kelin Kouté, Berry Louchaka. Mise en onde, Mimi Kindou. Supervision, Julien Nyamouigny. Présentation et coordination, Alain Rung-Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.